Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroire. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Mythologie de Roland Barthes. Au travers de la Citroën DS, du beefsteak frites, du striptease, du catch, le vin, le visage de Greta Garbo ou du plastique, les mythologies ne sont pas seulement un formidable portrait d'une France entrant dans les années 50 dans la culture de masse moderne. Elles sont aussi l'invention d'une nouvelle critique de l'idéologie. D'une part, celle-ci ne loge pas dans les grandes abstractions, mais dans les objets les plus quotidiens. D'autre part, elle n'appartient pas au monde des idées. Elle est d'abord langage, ou plus précisément un certain système de langage que seule une sémiologie, une science des signes, est en mesure de décrypter. Le catalogue des mythes contient un certain nombre de sujets qui peuvent être groupés soit par thème, soit par la forme du message qui véhicule le mythe lui-même. En sport, une occurrence principale, le Tour de France comme épopée. Nous nous intéresserons en lecture à cet thème. Roland Barthes est né le 12 novembre 1915 à Cherbourg pendant la Première Guerre mondiale, de Louis Barthes, officier de la marine marchande, catholique, et d'Henriette Binger, protestante, issue d'une famille de la bourgeoisie alsacienne. Son père est mobilisé en 1914 comme enseigne de vaisseau. Il meurt lors d'un combat naval en mer du Nord le 26 octobre 1916. Roland Barthes passe donc son enfance à Bayonne jusqu'en 1924, puis à Paris, où il étudie au lycée Montaigne et enfin au lycée Louis-le-Grand. Il obtient le baccalauréat en 1934 et s'inscrit en lettres classiques à la faculté des lettres de l'Université de Paris. En 1934, on lui diagnostique une lésion du poumon gauche. Et jusqu'en 1949, ses études, puis sa vie professionnelle, sont perturbées par la maladie et les séjours en sanatorium en France et en Suisse. En 1947, il publie dans Combat les premiers textes qui constitueront son essai « Le degré zéro de l'écriture », qui paraîtra en 1953. Commence aussi, en cette période, des séjours professionnels à l'étranger, Bucarest en Roumanie, où nommé bibliothécaire à l'Institut français en 1947, il s'installe dans la capitale roumaine avec sa mère. Alexandrie, en Égypte, professeur de français à l'université entre 1949 et 1950, il rencontre Greimas et il s'initie à la linguistique. Le Maroc, il séjournera plusieurs fois dès 1963 et il enseigne à Rabat en 1969-1970. Il se rend pour la première fois aux États-Unis en 1958 comme visiting professor au Middlebury College dans le Vermont, puis à New York l'année suivante. Il occupera la chaire de sémiologie du Collège de France de 1977 à 1980. En publiant Sur Racine en 1965, il s'attaque à la vieille critique qui analyse l'œuvre à partir de la bibliographie de l'auteur. Le début des années 1970 est une période de publication intense qui le voit s'éloigner du formalisme structuraliste et opter pour une subjectivité plus assumée. En 1974, il participe à un voyage en Chine avec François Valle, Philippe Solers, Julia Kristeva et Marcelin Plénet. Alors que cette visite coïncide avec une purge sanglante déclenchée à l'échelle du pays entier par le régime maoïste, l'article qu'il publie dans Le Monde à son retour ne contient aucune critique du système politique chinois. Avec la publication en 1977 de « Fragments d'un discours amoureux », Barthes accède à une notoriété médiatique. Le 25 octobre 1977, la mort de sa mère avec laquelle il vivait l'affecte profondément. Il est fauché par une camionnette d'une entreprise de blanchissage à Paris alors qu'il se rend au Collège de France le 25 février 1980. Il meurt des suites de cet accident le 26 mars suivant à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il est enterré auprès de sa mère dans le cimetière d'Urte, au Pays Basque. La géographie du Tour de France est, elle aussi, entièrement soumise à la nécessité épique de l'épreuve. Les éléments et les terrains sont personnifiés, car c'est avec eux que l'homme se mesure, et comme dans toute épopée, il importe que la lutte oppose des mesures égales. L'homme est donc naturalisé, la nature humanisée. Les côtes sont malignes, réduites à des pourcentages, revêches ou mortelles, et les étapes, qui ont chacune dans le tour l'unité d'un chapitre de roman, il s'agit bien en effet d'une durée épique, d'une addition de crises absolues et non de la progression dialectique d'un seul conflit, comme dans la durée tragique. Les étapes sont avant tout des personnages physiques, des ennemis successifs, individualisés par ce mixte de morphologie et de morale qui définit la nature épique. L'étape est hirsute, gluante, incendiée, hérissée, tous adjectifs qui appartiennent à un ordre existentiel de la qualification et vise à indiquer que le coureur est aux prises, non pas avec telle ou telle difficulté naturelle, mais avec un véritable thème d'existence, un thème substantiel, où il engage d'un seul mouvement sa perception et son jugement. Le coureur trouve dans la nature un milieu animé avec lequel il entretient des échanges de nutrition et de suggestion. Telle étape maritime, le Havre-Dieppe, sera iodé, apportera à la course énergie et couleur. Tel autre, le nord, faite de routes pavées, constituera une nourriture opaque, anguleuse. Elle sera littéralement dure à avaler. Tel autre encore, Briançon, Monaco, schisteuse, préhistorique, englura le coureur. Toutes posent un problème d'assimilation. Toutes sont réduites par un mouvement proprement poétique à leur substance profonde. Et devant chacune d'elles, le coureur cherche obscurément à se définir comme un homme total aux prises avec une nature substance, et non plus seulement avec une nature objet. Ce sont donc les mouvements d'approche de la substance qui importent. Le coureur est toujours représenté à un état d'immersion et non pas à un état de course. Il plonge, il traverse, il vole, il adhère. C'est son lien au sol qui le définit, souvent dans l'angoisse et dans l'apocalypse, l'effrayante plongée sur Monte Carlo, le jeu de l'Estorelle. L'étape qui subit la personnification la plus forte, c'est l'étape du Mont Ventoux. Les grands cols, alpins ou pyrénéens, pour durs qu'ils soient, restent malgré tout des passages. Ils sont sentis comme des objets à traverser. Le col est trou. Il accède difficilement à la personne. Le Ventoux, lui, à la plénitude du mont. C'est un dieu du mal auquel il faut sacrifier. Véritable Moloch, despote des cyclistes, il ne pardonne jamais aux faibles, se fait payer un tribut injuste de souffrance. Physiquement, le Ventoux est affreux. Chauve, atteint de séborrhée sèche, dit l'équipe, il est l'esprit même du sec. Son climat absolu, il est bien plus une essence de climat qu'un espace géographique, en fait un terrain damné. Un lieu d'épreuve pour le héros. Quelque chose comme un enfer supérieur où le cycliste définira la vérité de son salut. Il vaincra le dragon, soit avec l'aide d'un dieu, Gaule, ami de Phoebus, soit par pur prométhéisme, opposant à ce dieu du mal un démon encore plus dur, Bobé, Satan de la bicyclette. Le tour dispose donc d'une véritable géographie homérique, comme dans l'Odyssée. La course est ici à la fois périple d'épreuves et d'exploration totale des limites terrestres. Ulysse avait atteint plusieurs fois les portes de la terre. Le tour, lui aussi, frôle en plusieurs points le monde inhumain. Sur le Ventoux, nous dit-on, on a déjà quitté la planète Terre. On voisine là avec des astres inconnus. Par sa géographie, le tour est donc recensement encyclopédique des espaces humains. Et si l'on reprenait quelques schémas vichyens de l'histoire, le tour y représenterait cet instant ambigu où l'homme personnifie fortement la nature pour la prendre plus facilement à partie et mieux s'en libérer. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.